Ça marche très bien. Col top.
D'accord.
À Col Beseider. Tov, eh bien, les amis, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Donc, on étudie ensemble pour ce avant-dernier jour de Hanouka, septième bougie de Hanouka. Hein, et donc, je me suis dit qu'on n'allait justement pas étudier Hanouka.
Ah bon ?
C'est-à-dire que, si, on va partir du postulat de Hanouka. Mais comme on est Rosh Chodesh Tevet également, eh bien, je me suis dit qu'on allait parler justement du mois de Tevet, particulièrement du jour qui arrive dans le mois de Tevet, qui est le 10 du mois de Tevet. Et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant à Hanouka ? Eh bien, parce qu'il faut se rappeler que le dit Tevet est directement lié à Hanouka. Eh oui. Alors, évidemment, quand on parle du jeûne du dit Tevet, ça pourrait paraître un moment un petit peu rasratique. C'est-à-dire que c'est un jeûne, alors qu'on est le jour de Hanouka et on n'a pas le droit de jeûner aujourd'hui, par exemple. Donc si quelqu'un a décidé de faire le jeûne intermittent, je ne sais pas, eh bien il faut savoir que, je ne sais pas comment ça marche le jeûne intermittent, à quelle heure on mange, à quelle heure on ne mange pas. Il faut quoi ? Il faut 14 heures où tu ne manges pas ? Jusqu'à 14 heures, c'est
assuré. 14 heures à minuit.
Quoi ?
De 14 heures à 10 heures, minuit du soir, tu manges.
Et tout. Oui, ou alors le soir et jusqu'à midi.
Bon, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dépasser maintenant sans manger. Il faut manger avant Khatsot, sinon ça s'appelle un jeûne. Et oui, avant Khatsot, avant la moitié de la journée.
Un cookie, ça suffit.
Un cookie, ça suffit. Donc tout ça pour dire qu'on va parler du jeûne et pourtant aujourd'hui, on n'a pas le droit de jeûner. Mais justement, le jeûne du dit Tevet est diamétralement opposé au jeûne, par exemple, du 17 Tammuz ou de Tisha B'Av qu'on connaît peut-être mieux. Pourquoi il est diamétralement opposé ? Bien parce que le jeûne du 17 Tammuz ou de Tisha B'Av ou du 3 Tishrei, c'est-à-dire du jeûne de Gedalia, eh bien, ou alors, non, je mettrai le jeûne d'Esther encore différemment, c'est encore autre chose. Le jeûne du 10 Tevet, alors que dans les autres, on jeûne et on pleure. Alors, je vous explique. Dans les autres, alors qu'on jeûne et on pleure pour se rappeler d'événements traumatisants, tragiques, passés, le jeûne du dit Tevet, c'est pour ne pas arriver au tragique.
C'est déjà la brèche.
Alors, justement, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Il y a un autre jeûne qui est encore plus particulier, c'est celui de Esther, puisque le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de Tfila. C'est un jeûne de Tfila pour réussir. Ce n'est pas un jeûne pour se rappeler d'un problème, c'est un jeûne de tfila pour qu'Akadosh Baruch Hu nous réponde favorablement à notre tfila. Le jeûne de Kippour, Birla, j'en parle pas, ce n'est pas un jeûne de tristesse, c'est au contraire un jeûne de joie. Donc c'est très paradoxal, mais c'est le moment où on veut se détacher des contraintes de ce monde et se rattacher à quelque chose de totalement spirituel, mais ça on en parlera peut-être à l'approche de Yom HaKippour. Quoi qu'il en soit, le jeûne du dit Tevet, il s'est passé quelque chose. C'est pas comme le jeûne d'Esther où on prie avant qu'il se passe un truc. Il s'est passé quelque chose, mais on n'est pas encore dans la situation de Tisha B'Av où c'est fini. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on parle du dit Tevet. Alors évidemment, en termes d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les raisons historiques du jeûne du dit Tevet, car vous savez bien que dans le judaïsme, il n'existe aucune date qui a une symbolique qui ne révèle pas un événement historique qui s'est passé. D'accord ? S'il n'y a pas d'événement historique, il n'y a pas de date non plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, à le jour du dit Tevet ? Si on revient en arrière, à partir d'aujourd'hui jusque le plus loin possible qu'on se rappelle, le dernier événement en date pour symboliser le dit Tevet, a été mis en place en 1951.
C'est récent.
Oui, c'est récent. 1951. Et c'est
pour le dit
Tevet, exactement. Nous dit ici dans la source numéro 1, dans la feuille que vous avez, ce sont les protocoles du grand rabbinat d'Israël. Nous dit voilà, le Kaf Zayin Bekislev, donc pendant Hanouka, de l'année 1951, החליטה הרבנות הראשית לישראל לציין את יום עשרה בטבת בכל שנה כיום הקדיש הכללי. C'est le jour du קדיש général. יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום פטירתם לא נודע L'inog keminnage yom a yordzeit shel haniftarim. C'est-à-dire que toute personne qui a perdu les proches dans la Shoah mais qui ne sait pas quand, eh bien le jour où on fera la Hiloula, c'est le 10 du mois de Tevet. D'accord? Donc tzarich l'adlik nerod, nerod shama, lomar kadish, veilmod mishnayot leilul nishmot a nispim. על פי תקנת הרבנות הראשית בבתי הכנסת לאחר קריאת התורה שבתפילת שחרית אומרים את תפילת אל מלא רחמים לזכר חללי השואה. Donc le jour du dit Tevet en 1951 a été décrété comme étant Yom HaShoah. Yom HaShoah pour ceux qui ne savent pas quand leurs proches sont partis, et c'est la majorité des cas. OK. Ça c'est la dernière en date raison de pourquoi on fait le dit Tevet, le jeûne. Avant cela, il y avait une autre raison, c'est de dire que bah, le dit Tevet, c'est ce que vous avez ici dans la source numéro je ne sais plus combien, 7 et 8. Dans la source 7 et 8, eh bien, nous avons la deuxième raison en date de pourquoi le dit Tevet, c'est le jour de la traduction de la Torah en grec. Eh oui. Alors oui, de quoi parle-t-on? Nous sommes dans les années, alors je n'ai plus l'année exacte en tête, mais on est dans les années plus minus, plus ou moins, moins 280. Ah, peut-être moins 290, je sais pas, j'ai plus l'année en tête exacte. On est une quarantaine d'années après l'arrivée des Grecs en Israël. Rappelez-vous que les Grecs arrivent en Israël avec Alexandre le Grand en moins 330. Deux générations après Alexandre, eh bien, il y a la domination de la maison des Ptolémées qui domine Israël. Et le roi Ptolémée s'appelle Ptolémée II Philadelphos. Et il décide, en plus de faire construire la grande bibliothèque d'Alexandrie, et d'y amener toutes les sagesses du monde, mais dit, il y en a une qu'on n'a pas, c'est la sagesse des Juifs, donc traduisons la Torah en grec. Et on va la mettre dans la bibliothèque avec tous les écrits les plus extraordinaires. C'est-à-dire, et donc, eh bien, dans la lettre, dans la source numéro 7, vous avez la lettre d'Aristéas à Philocratès. Aristéas était un Juif, Philocratès était aussi un juif. Les deux habitent à Alexandrie. Et ils sont des contemporains de la traduction de la Torah en grec. Et donc, ils nous racontent comment ils vivent la traduction de la Torah en grec. Et on dit là-bas, Betom shivim veshnaim ayamim, donc ça a pris 72 jours, simu azkenim et melechet atargum. Les anciens, parce qu'en fait, ils avaient fait venir des sages de Jérusalem pour traduire la Torah en grec, ils ont terminé. Veu ukra le Yehuda Alexandria. Et il a été lu, donc la traduction a été lue, aux Juifs d'Alexandrie. Kulam shibechu et a targum. Tout le monde a dit, waouh, c'est génial le targum. Veav ishmiu divrei klala ameaimim al mi sheyaez leshanot et anusach. Et ils ont même mis en place des malédictions pour celui qui oserait changer le texte de la traduction. Après cela, la traduction a été lue devant le roi. Et le roi a été subjugué par la sagesse qu'il y avait dans ce texte et a dit, mais c'est incroyable que ce ne soit pas dans la culture grecque. 72 zekenim chozrim lirushalayim bekavod gadol veim matanot rabot avuram veavur Elazar haKohen haGadol. Et finalement, on ramène les chachamim à Jérusalem plein de cadeaux et de kavod et des cadeaux pour le Kohen Gadol qui les a envoyés. Tav? Donc la traduction de la Torah en grec, d'après ce qu'on lit ici, est un événement extrêmement joyeux. Tout le monde est content. Pourtant, à la source numéro 8, dans le traité de Megillah, dans le Talmud, on nous dit « Ukshesimu et melechet atargum bechet betevet yarat choshech laolam shlosha yamim. » Ils ont terminé le 8 Tevet et il y a eu 3 jours de ténèbres qui se sont abattus sur le monde, le 8, le 9 et le 10 du mois de Tevet. Ténèbres. Ténèbres, choshech. Pas de soleil. Hein ?
Il faisait nuit.
Il faisait nuit ? Pendant trois jours.
C'était pas le solstice d'hiver.
Non, c'est pas le solstice d'hiver. C'est pas là. Il faisait nuit. Est-ce que il faisait nuit pour de vrai ? Est-ce que c'est métaphorique ? Est-ce qu'il y a eu une grande éclipse à ce moment-là ? C'est pas le débat. D'après la tradition juive, on voit la même obscurité ici que la plaie des ténèbres de la sortie d'Égypte. Donc, c'est ce qui, voilà, une des raisons de la traduction à Torrent, du dit Tébet. Et enfin, quand on remonte le plus en avant et qu'on regarde quelle est la première raison historique du dit Tébet, eh bien là, je vous ramène cette fois à la source numéro 3. On nous dit dans le livre de Yechezkel, Ben Adam, que tov lecha et shem ayom et etzem ayom azé, samach belech bavel al Yerushalayim beetzem ayom azé. Quel est ce jour-là en particulier dont nous parle le livre de Yechezkel? Eh bien, c'est le jour où le roi de Babylone est arrivé et a fait le début du siège de Jérusalem. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans la source numéro 4, dans le livre de Melachim. Vayi bishnat ateshiit le malko, c'est-à-dire, bechodesh asiri beasor lachodesh, donc le 10 Tevet, ba nevuchadnetzar melech bavel, hu vechol chelo al Yerushalayim, vayichan alea, vayivnu alea, daik saviv. Donc, dans la source numéro 4, on voit que le 10 Tevet, c'est le jour où Nevuchadnetzar est arrivé à Jérusalem. C'est le début du siège de Jérusalem. Ce n'est pas la première brèche dans la muraille, ça, ce sera le 17 Tammuz. C'est le début du siège qui, d'ailleurs, a eu lieu 2 ans et demi avant la brèche dans la muraille.
Et pourquoi, d'après vous, ce ne serait pas le 10 Tammuz ?
Et pourquoi ce serait le 10 Tammuz ?
Mais c'est aussi le 10 Tammuz. Il faut partir de Rosh Hashanah.
Mais pourquoi tu veux partir de Rosh Hashanah ?
Parce que c'est aussi le 10 Tammuz.
Non. Ben non. Je suis désolé d'être en désaccord avec toi, mais dans ma Torah, il y a marqué « Achodesh azeh lachem rosh chodashim, rishon ou lachem lechodshe hashana ».
Et alors pourquoi on a pris avec un chéri que il y a rosh hashana, c'est un début d'année, et Nissan, c'est encore un début d'année ?
Et j'ai pas compris. À ce moment-là, pourquoi tu t'arrêtes à 2 débuts d'année ? Pourquoi tu ne me dis pas que le début Rosh Chodesh Elul, c'est aussi un début d'année pour Maasar Behema, et que Rosh Chodesh Shvat ou Toubi Shvat, Machloket Bet Hillel Bet Shammai, c'est aussi un début d'année pour les Ilanot. C'est-à-dire que tu peux me dire, dans la Mishnah, on te dit Arba Rosh Hashanim Hem, Mishnah de Rosh Hashanah. Et ceci étant, pour ce qui est du calendrier juif, à Chodesh Arishon, ce sera toujours Nissan. Là où il y a un changement entre la numérotation des mois et ce à quoi il représente, c'est uniquement dans le déluge. Dans le déluge, on te parle de Chodesh comme ci, Chodesh comme ça, et il y a plusieurs avis pour savoir ce que c'est. Mais le Talmud va nous expliquer, oui, c'est à cause du déluge qu'il y a eu le balagan. Mais dans tout le reste de la Torah, quand on dit à Chodesh Arishon, ça veut toujours dire Nissan, toujours. Et à Chodesh Hashevi, ce sera toujours Tishré. Tu t'es dit que c'était le renouvellement ?
Parce que chaque année, à Rosh Hashanah, ouais, on décide que...
Dieu nous juge.
À la fin de Sukkot,
Dieu nous juge. C'est le moment du jugement pour l'humanité.
En général, le jugement, c'est à la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau.
Et au contraire, tu pourrais dire que le jugement, c'est au milieu de quelque chose pour voir si tu as mérité et comment tu vas continuer. C'est pas idiot non plus. Mais de toute façon, là, tu es en train d'essayer de m'emmener sur qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle Rosh Hashanah alors que ça l'est pas ? On va pas aller chercher midi à 14h. Dans la Torah, Rosh Hashanah est présenté comme étant Bayom Arishon, la Chodesh Hashevi'i. Donc, il y a un moment donné, si dans la Torah, il y a marqué Bah Chodesh Hashevi'i, dans la paracha de Emor, lorsqu'on fait la liste des fêtes, d'accord ? Eh bien, comment est-ce qu'on te présente Rosh Hashanah ? Bah Chodesh Hashevi'i, bah Echad la Chodesh. C'est-à-dire, donc, à un moment donné, je peux rien faire. C'est-à-dire, maintenant, si tu veux savoir pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah alors que c'est à Chodesh Hashevi, c'est pas shoot, mais on va pas développer. C'est simplement parce que c'est pas notre Rosh Hashanah à nous du tout. C'est le Rosh Hashanah d'Akadosh Baruch Hu. Eh oui, puisque la Mishnah, la Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, nous enseigne que en Tishrei, c'est Rosh Hashanah le Malchei Umot HaOlam. C'est là où on commence à compter les années de règne pour les rois du monde. Or, le roi du monde par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, de la même façon que là, cette année, à Rosh Hashanah, on va compter une nouvelle année de règne à, comment il s'appelle, là, Charles III. Ça, Charles III ? Hein, c'est ça ? L'anglais, là. L'Angleterre. Ben, ça fera 3 ans qu'il règne, alors qu'en fait, ça fait que 2 ans et quelques. Mais pour le judaïsme, ça fait 3 ans en Tishrei. Parce que c'est le moment où on recommence une année de règne. Donc, à Kadosh Baruch Hu, également. Donc, c'est son Rosh Hashanah à lui. Bekitsour, donc là, il s'agit, en malasot, du 10 du mois de Tevet. C'est donc le jour où Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem. Donc, on a 3 événements. Le début du siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar, c'est le plus ancien. Ensuite, la traduction de la Torah en grec. Et ensuite, Yom HaShoah, Yom HaKadish HaKlali. D'accord ? C'est les 3 événements. Ben, quel est le lien et quelle est l'importance de ce jour-là ? Je voudrais simplement rappeler que, bon, alors, d'un côté, le dit Tevet, c'est le jour le plus simple. C'est le jeûne le plus facile à faire. Parce qu'il commence tard, il termine tôt, il ne fait pas chaud. Donc, a priori, c'est le jeûne le plus facile à faire. Mais quelque part, c'est un des jeûnes les moins suivis. D'abord parce que les gens ne savent pas forcément combien de personnes ici-bas, et même en Israël, vivent au rythme du calendrier juif. Compliqué. C'est-à-dire que, est-ce que tous les jours, pas quand c'est des dates évidentes, bon, je redèche, c'est-à-dire. Mais est-ce que tous les jours, si je te prends dans la rue et je te dis, hey, on est quel jour en date juive ? Est-ce que tout de suite tu sais ? Il y a des gens qui vivent comme ça tous les matins. Pour eux, c'est la date juive, point. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Parce que quoi ?
Parce qu'il y a vraiment qui disent
le Kaddish. Oui, parce qu'il y a le Kaddish Aklali, pour ceux qui le truc. Mais la majorité des gens. Oui, il y en a qui. Enfin, c'est annoncé partout, dans les milieux religieux. C'est-à-dire ? Donc, bon, je suis très, si tout le monde est au courant, c'est très bien, quoi, la cabote. Mais il faut que tout le monde soit au courant. Parce que le dit Tevet a une particularité.
Hein? À l'Oulpan, on nous donnait la date.
Ah, ben, c'est important, vous voyez. Maintenant, le dit Tevet a une particularité encore plus importante. C'est que, il est plus important que Shabbat. Voilà.
Ce jour-là.
C'est le jour du dit Tevet. Et plus, c'est très, très rare. C'est-à-dire que si Tchabeb, comme on dit chez vous, si Tisha B'Av tombe Shabbat, on repousse Tisha B'Av. Eh bien, là non, et Yom HaKippourim non plus. Si Yom Kippour tombe Shabbat, on jeûnera quand même pendant Yom HaKippourim. Et alors, le dit Tevet, on ne jeûnera jamais le dit Tevet Shabbat parce que ça tombera jamais Shabbat. Mais pourquoi ça tombera jamais Shabbat ? Parce que nous, on s'est arrangé pour que ça tombe pas Shabbat. C'est-à-dire que depuis qu'on a créé un calendrier qui est basé sur les mathématiques et pas sur quand est-ce qu'on voit la nouvelle lune, alors on a mis dans ce calcul mathématique plein de tricks que je ne saurais pas vous expliquer parce que je suis nul en mathématiques, mais plein de stratagèmes pour que certains jours ne tombent pas à certaines dates. Et donc, on s'est arrangé que le dit Tevet ne tombe pas Shabbat. Et pourquoi on s'est arrangé ça ? Parce que sinon, on aurait dû jeûner Shabbat. Et on n'a pas envie. À Yom Kippour, on n'a pas le choix. C'est-à-dire ? Mais pourquoi est-ce que le dit Tevet est si important ? On nous dit, dans la source numéro 2, Rabbi David Abu Daram, « Vetzarich atal adat, she'im ayinu, slicha, mekaddeshim lefi areiya, vetzom asara betevet ayachal beshabbat, ayat doche et ha-shabbat. » Comme Yom HaKippourim. Et d'où est-ce qu'on apprend cela ? D'où est-ce qu'on apprend que le dit Tevet est aussi fort que Yom Kippour ? Parce qu'il y a marqué dans la source numéro 3, « Be'etzem ayom azé ». C'est-à-dire que le jour du dit Tevet est appelé dans la Torah, enfin dans le Tanakh, « Etzem ayom azé ». Or, comme le jour de Yom Kippour dans la Torah est aussi appelé « Etzem ayom azé », alors la Gemara va faire ce qu'elle sait faire, à savoir un « Gzera Shava », en disant, puisque là, il y a marqué « Etzem ayom azé », et que là, il y a marqué aussi « Etzem ayom azé », l'un, pas, enfin, « bas Shabbat », alors l'autre aussi, « bas Shabbat ». Oui ?
C'est pas un jeûne des Rabbanan ?
Tout à fait.
Alors, comment ça peut...
C'est incroyable, hein ? Bah, d'abord, on voit que c'est déjà marqué dans le Tanakh, cette date-là. Le fait que les rabbins ont institué un jeûne plus tard, il n'empêche qu'ils se basent sur quelque chose de très très ancien. Et donc, effectivement, En Mala Asot, le jeûne du dit Tevet, s'il tombait Shabbat, et Bezrat Hashem, un jour, on va recommencer à faire Kiddush HaChodesh al Piareiya Bebet Amikdash. Bon, vous me direz, à ce moment-là, il n'y aura plus de jeûne, puisque les jeûnes redeviendront, enfin, se transformeront en jour de joie. Mais, vous. Pardon ? Non, Yom Kippour, c'est pas un, encore une fois, c'est pas un jour de deuil, c'est un jeûne de joie. Celui-là, il reste. Parce qu'après, tu as tellement mangé à Rosh Hashanah et tout ça, donc tu peux pas faire de mal. Bekitsour, donc le dit Tevet est vraiment une journée importante. Ok, à tel point que si ça tombait Shabbat, on jeûnerait Shabbat. Lama. Bien, il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce si important le jeûne du dit Tevet? Comme on l'a dit, il s'est passé des choses. Mais les choses qui se sont passées, si on prend les deux premières, à savoir le début du siège de Jérusalem et la traduction de la Torah en grec, eh bien, en vrai, il ne s'est rien passé. Si on y regarde de plus près, il ne s'est rien passé en vrai ces dates-là. C'est-à-dire, lorsque Nabucodonosor arrive, le dit Tevet, autour de Jérusalem et donne l'ordre de commencer le siège de la ville. Le siège n'est pas du tout terminé. Ça va prendre quelques semaines avant que l'armée babylonienne n'arrive à finalement entourer toute la ville, de créer une muraille autour, de faire en sorte que plus personne ne peut passer. Donc, moi, je suis un juif, j'habite à Jérusalem, je vois l'armée babylonienne arriver le dit Tevet. Alors évidemment que ça sent le roussi, mais est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je ne pourrais pas m'enfuir? Si, je peux encore m'enfuir. Est-ce que je ne pourrais pas, je ne sais pas moi, envoyer des messagers à un allié pour qu'il vienne m'aider? Je peux. Est-ce que je ne pourrais pas réunir tout l'argent des notables et des riches de la ville pour payer une armée de mercenaires qui viendra me défendre? Est-ce que je ne peux pas décider que c'est le moment de faire tchouva et que peut-être Akadosh Baruch Hu va m'aider? Est-ce que je pourrais pas lancer une grande chaîne de Tehilim dans la ville? Si, je peux. C'est-à-dire, pour l'instant, tout est encore possible. C'est pas le cas le jour du 17 Tammuz. Le jour du 17 Tammuz, donc beaucoup plus tard, lorsque l'armée babylonienne rentre dans la ville, c'est trop tard pour commencer à prier. C'est trop tard pour faire une chaîne de Tehilim. C'est trop tard pour envoyer des messagers. Ça y est, les soldats babyloniens sont dans la ville. Et quand on parle de Tisha B'Av, c'est même plus trop tard. Ça y est, c'est du passé. Donc il y a une grande différence entre le dit Tevet et le 17 Tammuz et Tisha B'Av. 17 Tammuz, c'est trop tard. Tisha B'Av, c'est passé. Mais le dit Tevet, le pire reste à venir. Et donc, tu peux encore changer la donne. Ça ne va pas être facile. Le 9 Tevet, c'était mieux. Mais le 10 Tevet, c'est la dernière alarme, si tu veux. C'est le moment où tu peux encore changer quelque chose à ton destin. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque des Babyloniens. C'est exactement ce qui s'est passé aussi à l'époque de la traduction de la Torah en grec. Au moment où la traduction de la Torah en grec a lieu, est-ce que les décrets de Antiochus sont déjà en place? Absolument pas, ça arrivera dans 100 ans. Est-ce que la persécution grecque, elle est déjà là? Bien sûr que non. Est-ce que, ça y est, on a déjà détruit le deuxième temple avec les Romains? Non plus. Mais est-ce que l'influence grecque, elle a commencé à pointer le bout de son nez? Ah oui. Est-ce que tu es conscient de ce qui va arriver?
Non.
Ou pas? Et en fait, c'est ça la question.
C'est ça,
ça l'ignan du 17 Tammuz. Du 17 Tammuz, du 10 Tevet. Le 17 Tammuz, c'est trop tard. Le 10 Tevet, même à l'époque des Grecs, c'est pas encore trop tard. Ils ont traduit la Torah en grec. La majorité des Juifs ont acclamé la traduction. Certains ont compris qu'il y avait un grand problème. Parce que c'était le début de l'assimilation culturelle totale. On a déjà vu à l'époque, il y avait des mecs qui s'appelaient Aristéas et Philocrates, qui sont des juifs. Ah, tu voulais dire un truc ?
Non, c'est-à-dire que pour la Torah, c'est simplement le fait qu'on puisse imaginer qu'il y ait une assimilation, c'est suffisamment grave pour en faire un jour qui repose sur elle.
Alors, d'abord, c'est pas un jour qui laisserait supposer qu'il y ait une assimilation.
Ça annonce
pas, c'est déjà là. Il y a quand même un mec qui s'appelle Aristéas, Philocrates, puis je ne vais pas citer les autres. Je n'oublie pas quand même qu'une génération seulement après Alexandre, le chef du Sanhédrin s'appelle... Non. Non. Il n'y a aucun rabbin qui s'appelle Alexandre. Enfin, pas à cette époque-là, quoi. Bah, l'élève de Shimon HaTzadik, Shimon HaTzadik, c'est l'époque d'Alexandre. Son élève, celui qui va continuer après lui, s'appelle Antigonos Ish-Socho. Antigonos, c'est pas de chez nous. Hein. C'est-à-dire, donc ça veut dire que s'il s'appelle Antigonos, c'est que ses parents, quand il est né, l'ont appelé Antigonos. Donc il y avait déjà une influence. La traduction de la Torah en grec, c'est pas seulement une influence dans l'air, c'est concret. On a traduit la Torah en grec. C'est-à-dire, mais on n'est pas encore dans les décrets, dans la persécution. Mais il se passe quand même déjà quelque chose. Et en fait, toute la question, elle est là. Elle est, est-ce que je suis conscient que le danger est en train de pointer le bout de son nez, mais je peux
réagir
ou j'attends qu'il soit trop tard et je ne pourrai plus réagir.
Le problème, c'est que c'est fourbe, parce que ça ressemble à un espèce, pardon, je dis ça comme ça, mais ça ressemble à une espèce de cancer. Parce qu'en général, les gens, ils ne le sentent pas dès le départ.
Ah, oui.
Et seulement au moment où ça commence à faire vraiment mal, alors ils vont voir un spécialiste, et après ils disent, c'est ça.
Nahon, à la différence quand même que le cancer, on ne sait pas quelles sont les causes, mais à la différence, là, pour l'analogie, c'est que quand tu dis au début, on ne sait pas. C'est qu'on n'a aucun signe qui nous permet de le savoir. Là, il s'est quand même passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'armée de Nabucodonosor qui est quand même là, et il y a quand même une traduction de la Torah en grec, c'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose.
Ah, donc ça fait mal, mais on n'est pas allé voir le docteur.
Voilà. Okay. Voilà. C'est, bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, quoi. Que j'ai eu un symptôme, je dis, ah, ça va, c'est rien, ça va passer. Et d'ailleurs, très souvent, ça passe. Hein. Ça passe parce que ça vient par vague jusqu'à ce que ça soit compliqué. Mais là, il s'est passé quelque chose. Mais ce n'était pas encore dramatique et on n'a pas pris le problème à bras le corps. C'est-à-dire ? Donc, c'était vrai à l'époque de Nabucodonosor. C'est vrai également à l'époque de Hanouka. Si on avait réagi à l'époque de Ptolémée II, on n'aurait peut-être pas eu les problèmes qu'on a eu avec Antiochus. Bah, je ne sais pas, hein, l'histoire, je ne peux pas réécrire l'histoire. Mais on peut se poser la question. Si, par exemple, à l'époque des guerres entre les Ptolémées et les Séleucides, parce que vous savez, à la mort d'Alexandre, Alexandre n'avait pas d'enfants, et donc c'est ses généraux qui se sont partagés son empire. Et donc pour nous, ce qui nous intéresse, il y avait quatre généraux qui se sont partagés l'empire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est deux. C'est Ptolémée I, qui avait pour capitale Alexandrie, et Séleucide I, c'est Séleucos, qui avait pour capitale Antioche en Syrie. Donc vous imaginez, Syrie, Alexandrie, au milieu, il y a Israël. Donc ça veut dire que dans l'histoire, dans la vraie histoire, il y a une centaine d'années, les premières 100 ans où on était dominé par les Ptolémées, et après il y a eu une guerre entre Ptolémée et Séleucide, et c'est les Séleucides qui ont pris la direction aussi d'Israël. Mais si pendant cette guerre-là, par exemple, nous on avait prêté main forte aux Ptolémées, on a été neutre à ce moment-là, mais disons qu'on prête main forte aux Ptolémées, alors peut-être que les Ptolémées ils restent les patrons, et peut-être qu'ils ne nous font pas des persécutions, et peut-être qu'ils nous reconnaissent, ils sont reconnaissants, ou alors on prête main forte aux Séleucides, et on devient des alliés des Séleucides. Peut-être qu'ils nous laisseront une autonomie en Eretz Israël. Et il n'y aura pas Antiochus IV avec ses décrets. Je ne sais pas. D'accord ? J'invente une histoire alternative. Mais le fait est que nous, on n'a rien fait. OK ? Et ça, c'est une réalité. Il y a un élément qui se met en place, et toi, tu ne vois pas. Et ça, c'est un vrai problème.
Tu ne vois pas ou tu fais exprès de ne pas
le voir ? Ça dépend. Je ne vais pas parler pour les gens. Il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui voient, qui ne veulent pas voir. Il y a des gens qui font l'autruche.
C'est comme chez les
Bah, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans la source numéro 6. Eizehu Chacham, ce qui est le sage. Alors vous, vous connaissez peut-être Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de chacun. C'est vrai. Mais il y en a une autre. Aroé Tanolad. C'est-à-dire quoi? Alors, qui voit l'avenir. Genre quoi, c'est un diseur de bonne aventure. Voilà, qui voit ce qui est en train d'arriver. C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas, pas une blague, c'est vraiment la raison pour laquelle les Meyaldot s'appellent des sages-femmes. Pourquoi elles s'appellent les sages-femmes? Ezeuchacham, Aroet Anolad, qui c'est qui voit le bébé en premier? C'est la sage-femme, donc elle est sage-femme. C'est ça? Bekitsour, il faut être capable de voir ce qui va arriver. Alors, il ne s'agit pas d'être prophète. On ne demande pas ici de dire prophète. Il ne s'agit pas d'être magicien non plus. Il s'agit de voir avec ce qu'on a, d'avoir les yeux en face des trous et de se dire « Allô, qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc on a vu qu'il y avait ça à l'époque du premier temple, l'époque du deuxième temple, et on a dit la troisième chose par rapport au 10 Tevet, c'est « Yom HaKadish HaKlel ». Alors, pour ce qui est du 10 Tevet par rapport à la Shoah, bien là aussi, il faut bien comprendre de quoi on parle. Quand on parle de la Shoah, c'est évidemment pas un truc qui est arrivé pouf, comme ça. Bien sûr que non. C'est-à-dire que, évidemment, que si tu me dis la Shoah, elle a commencé le 20 janvier 1942, là où il y a eu la conférence de Wannsee qui a mis en place la solution finale, je te dis, tu te trompes lourdement. Ça n'a pas commencé à ce moment-là. Si tu me dis la Shoah, elle a commencé le 1er septembre 1939, quand il y a eu l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, je dis, mais tu te trompes, mon ami. Alors, puisqu'il faut qu'on mette une date, pour moi, je dirais que le 10 Tevet pour la Shoah, bien que ça ne corresponde pas, c'est pas la vraie date, mais au niveau de l'idée, je dirais que l'avènement de Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933, c'est le 10 Tevet de cette époque-là. Alors, c'était pas le 10 Tevet. D'accord, ne, pour aller chercher, ça tombera pas le 10 Tevet, même si c'est pas loin. Mais c'est pas le 10 Tevet. Mais de ce que ça représente, de mon point de vue, le 1er septembre 1939, je le fais correspondre au 17 Tammuz. Là aussi, c'est pas loin, mais c'est pas la date. Bon, je le fais correspondre au 17 Tammuz. Parce que 17 Tammuz, c'est le moment où les combats ont commencé dans les rues de Jérusalem. Bah, le 1er septembre 1939, c'est le moment où la guerre commence, les combats commencent. C'est trop tard pour s'enfuir ou pour faire quelque chose. Tisha B'Av, je le fais correspondre à la solution finale. C'est même pas trop tard, c'est passé. Donc pour moi, le 10 Tevet, je le fais correspondre au 30 janvier 1933. C'est-à-dire ce moment où Hitler monte au pouvoir. Mais où il ne se passe rien. Mais la nuit de cristal, c'est quand? Mapitom. Mapitom. La nuit de cristal, ça sera beaucoup plus tard. 138. 5 ans plus tard. La nuit de cristal est un des événements qui, le premier événement véritable qui va être anti, qui va montrer une action antisémite, ça va être les lois Nuremberg en 1935. Donc on n'y est pas encore. Le 30 janvier 1933, Hitler monte au pouvoir. Mais le 1er février 1933, il s'est rien passé de différent pour les Juifs. Il ne les aimait pas avant qu'ils montent au pouvoir. Il ne les aime toujours pas. Mais dans le quotidien du Juif d'Allemagne, il ne se passe rien.
Il a écrit son livre avant.
Bien avant. Non, mais même là, même quand il a écrit le livre, il ne s'est encore rien passé. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire, bien sûr qu'on sait qu'Hitler, il n'aime pas les Juifs. Ça, c'est une évidence. Mais dans les faits, il monte au pouvoir le lendemain. Il ne s'est rien passé encore pour les Juifs. Ça va venir.
Est-ce que... pas les Juifs
que peut-être qu'il le sentait. Ou peut-être qu'il se disait, qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse de plus?
Oui, bien sûr, mais tu savais pas quel homme
c'était. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau décret qui arrivait, il se disait, bah, ça va, là, il ne pourra pas faire plus. Mais évidemment qu'il ne pouvait pas imaginer. Personne ne demande d'imaginer, mais par contre, tu peux quand même te dire qu'il y a un problème. Et qu'il faut faire quelque chose, sans forcément s'imaginer ce qu'il y aura, parce que ça, tu peux pas. Mais te dire, attends, Deux secondes. Il y a quelque chose là. Est-ce qu'on... Et donc nous, on continue à ne pas apprendre de l'histoire ? Ah ben non, il faut apprendre de l'histoire. C'est pour ça que je vous ai amené ici, oui ? Non ? C'est pour ça que je vous ai amené ici, dans la source numéro 5, un texte magnifique du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook, du Rav Cook. Un des derniers textes d'ailleurs qu'il va écrire, parce qu'il l'a écrit un an et demi avant sa mort. C'est un texte qui en fait va être d'abord dit oralement, puisqu'il est prononcé à Rosh Hashanah 1933. Le Rav Kook meurt en 1935. Mais à Rosh Hashanah 1933, comme tout rabbin qui se respecte, eh bien le Rav Kook, avant la sonnerie du shofar, va faire un petit Dvar Torah. Dans toutes les synagogues, c'est comme ça. Après, Rosh Hashanah, il va mettre par écrit son Dvar Torah.
Non,
pas du tout. C'était Bebet Knesset à Churva, dans la synagogue de la Churva, dans la vieille ville de Jérusalem. C'est ça ? D'autant plus que Merkaz Arav, à l'époque du Rav Kook, n'est pas localisé à Kiryat Moshe, dans sa maison. Ce qu'on appelle Bet Arav, Berechov Rav Kook, au centre-ville. C'est ça ? Et donc, comment le Rav Kook parle ? Nous sommes donc en septembre 1933, 8 mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, mais 6 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. OK ? 5 ans avant la nuit de cristal. Il s'est encore rien passé. Voilà ce que nous dit le Rav Kook. Il commence avec un verset de Ishayahu Hanavi. Vaya bayom ahu yitaka beshofar gadol ubahu haovdim be'eretz Ashur vanidachim me'eretz be'eretz Mitzrayim veishtachavu la'Hashem be'ar kodesh b'Yerushalayim. Ça c'est le verset avec lequel il commence de Ishayahu Hanavi qui nous dit viendra un jour où sera sonné le grand shofar et ce grand shofar ramènera les exilés de Ashur, d'Égypte, et tous ces exilés reviendront sur la montagne de Dieu, se prosterner à Jérusalem. Voilà le verset. Il continue en disant une partie de la tfila de Rosh Hashanah, où on dit « Eloheinu ve'lahavoteinu, teka, beshofar, gadol, lecherutenu ». On le dit dans la tfila de Rosh Hashanah, mais on le dit aussi dans la tfila de tous les jours. « Teka, beshofar, gadol, lecherutenu ». Et donc, nous dit le Rav Kook. Al shofar gadol shel geula niba anavi. Le prophète nous a parlé ici, donc dans Ishayahu, du grand shofar de la geula. Veletkiat shofar gadol anachnu mitpalelim. Et nous, quand on fait la tfila, on demande qu'il y ait une sonnerie d'un grand shofar, gadol dafka. Et il va s'intéresser au mot gadol. C'est-à-dire quoi qu'ils voient un grand shofar ? C'est mazé. Ki madrigot shonot yesh beshofar shel geula. Il y a plusieurs dimensions dans le shofar de la geula. Yesh shofar gadol, benoni, ragil, veyesh shofar katan. Agav, cette dimension-là de gadol, benoni et katan dans le shofar est vraie aussi dans la halakha. Dans la halakha aussi, il y a un shofar gadol, c'est la corne de bélier. Ça, c'est le top pour sonner à Rosh Hashanah. Corne de bélier. Ensuite, il y a un shofar benoni, moyen. C'est, j'ai pas de corne de bélier, donc je peux prendre tous les autres cornes d'un animal cachère. Ça, c'est ce qu'on appelle shofar benoni, moyen. Corne de chèvre, une corne d'antilope, ce que vous voulez.
D'antilope, elle est cachère ?
Bien sûr. Shofar gadol, c'est quoi ? On a dit, c'est la corne de bélier.
Le bélier, ça.
D'accord ? Pour nous rappeler le bélier de Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, la Kedat Yitzhak. Et Mazé Shofar Katan, c'est si j'ai pas de corne de bélier ou pas de corne d'animal cachère, je peux prendre la corne d'un animal pas cachère. J'ai pas autre chose. Ok ? Tu peux pas prendre une corne muse, mais tu peux prendre une corne de rhinocéros, par exemple. C'est-à-dire, ou alors, Shofar Katan, c'est aussi une corne d'un animal cachère, mais qui aurait servi à la Avodah Zara. Bon. Mais bon, viens, on met ça de côté. Donc, on a trois styles de chauffard pour Rosh Hashanah, Gadol, Benoni, Katan. Je dis le Rav Kook, pour la Geoula, il y a également trois sortes de chauffards, Gadol, Benoni et Katan. Eh oui. Alors, c'est quoi ces trois chauffards ? Bien, regarde. Hop là. Yes, chauffard, Gadol, ok. Ve chauffaro shel Mashiach, et le shofar du Mashiach, donc de la Géoula, Nimshal el shofar kipshuto, il correspond au shofar normal de Rosh Hashanah. El shofar shel Rosh Hashanah. Ha'alacha kovat b'shofar shel Rosh Hashanah shalosh madrigot. Shofar shel Rosh Hashanah mitzvato be'ail. C'est ce qu'on vient de dire. C'est le top, c'est la corne de bélier. Quoi? Zé shofar, vezé shofar. Teka b'shofar, le cheruteno.
Mais d'où est-ce qu'il sait que celui-là, c'est
le Mashiach? Non, lequel?
Je n'ai
pas compris.
Il a
Donc il te dit, comment tu sais qu'il y a un rapport entre le chauffard du Mashiach et le chauffard de Kipchuto? Parce que les deux s'appellent chauffard. Donc s'il y a des madrigotes dans l'un, il y a des madrigotes dans l'autre. Maintenant, d'où il sait qu'il y a un chauffard pour la Géoula? Parce qu'il t'a amené le verset.
C'est comme les chauffards dans la Gemara qui font essayer de
l'aider. Ben vadaï. Bah c'est ça fait partie des shlosh esrei midot chez la Torah nidreshet b'hem. Donc il nous dit donc le bedi avad kol shofar otkirim ve shofar mi behemat me'a ve chen shofar mi behemat avodah zara shel goy pasul aval im takabo yatsa yedei chovato. OK, c'est les trois dimensions qu'on a dit au niveau de la halakha. Umutar litkoa bechol shofar shehu im ein shofar kasher ubilvad shelo yevarech alav. Si par contre tu te dois de sonner à Rosh Hashanah avec un chauffard d'un animal pas cachère, tu as fait la mitzvah, mais tu ne fais pas la bracha avant de faire le chauffard. Parce qu'on ne fait pas la bracha sur quelque chose de tamé. Or, c'est un animal impur qui nous a servi, donc on ne fait pas la bracha avant. Ok? Top. Vedargot ele amenuyot ba'alacha be'shofar shel Rosh Hashanah magbilot hen le dargot be'shofar shel Geoula. Donc, on peut faire une corrélation entre les trois dimensions du chauffard de la halakha et les dimensions du chauffard de la geoula. Maula mito shel davar chauffard shel geoula. C'est quoi, alors, ce chauffard de la geoula? Chauffard shel mashiach. Anu mitkavenim le itorerut ou le trifa agoremet le triato ou le geoulato shel am Israël. C'est quoi le chauffard du mashiach? C'est ce qui permet la résurrection nationale du peuple juif. C'est ça qui s'appelle le chauffard shel mashiach. ההתעוררות זו היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים ומביאתם להר הקודש בירושלים. C'est quoi cette sonnerie-là? C'est celle qui fait venir les gens de Sarcel, de Créteil, et qui les fait venir en Israël. Qu'est-ce qui t'a fait venir en Israël? Shofar shel Mashiach. D'accord? C'est ça la Géoula? Quand Israël y revient? Non?
Je sais pas, je savais pas ça.
Mais c'est quoi la Géoula?
Mais pour le monde entier.
Il faut bien que les Juifs y rentrent à la maison. C'est pas bien d'être en exil. Il faut rentrer.
Mais si eux, ils sont là-bas, ils ne sont pas ici, et qui va les ramener, c'est ça?
Ah ben, on va voir, justement. OK? Alors, nous dit le Rav Kook. Aya haïta birush b'Israël bizmanim shonim ve'yeshna gam ayom. בחלקים וביחידים מישראל התעוררות ורצון שמקורם בקדושה באמונה חזקה בהשם ובתורה בקדושת ישראל ותעודתו וברצון לקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה זהו השופר הגדול והמעולה רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה שבקדושה. Donc, il y a des gens qui sont venus en Israël parce qu'ils ont entendu le shofar gadol. C'est quoi le shofar gadol? Pourquoi ils sont venus en Israël? Tu leur demandes, ils te répondent parce que Kadosh Baruch Hu veut. C'est Ketuv Batorah, c'est mitzvah. Il nous dit, Rafou, qu'il y a de tout temps eu des gens qui ont fait ça, qui sont revenus à Sion par un appel de Kedusha. Par exemple, ce qui vous est arrivé, c'est ce qui est arrivé aux élèves du Baal Shem Tov, aux élèves du Gaon de Vilna, à Rabbi Yehuda Halevi, toutes ces personnes qui sont venues parce qu'ils étaient appelés par la Torah, par la Kedusha. C'est le top. Ah, voilà, bien sûr, c'est le top. Nous dit Aval, Zeu Shofar Agadol Vamouler, et ça, ok. Quoi? Non, Yesh Ratson, non, c'est moi qui ai sauté une phrase en fait. C'est ma faute complètement. J'ai complètement sauté une phrase. Ratson am leigael mitoch haratzon anaale le male teudato agedola sheina nitna leitmale biyoto gole ve'aluv. OK? Ça change rien à ce qu'on vient de dire, mais j'avais juste sauté une ligne. Veyesh sha'aratzon akadosh nechlash. Et des fois, cette volonté pleine de kedusha s'affaiblit. En ha'itla'avut ha'gedola le'rayonot le'rayon elyonim shebikdusha. Donc il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'attacher à ce qu'on vient de dire, à la Torah qui me dit qu'il faut venir en Israël. Aval nishar lefachot ha'teva enoshi ha'bari. Mais il reste la nature humaine saine. Chez Gamou, mais Korobik Dusha, ça aussi, ça vient quelque part de la sainteté. Veteva enoshi barize, mecholel ratson tivi, pashut, beuma, laakim, et shiltona, beartza. Le sentiment naturel d'un peuple, c'est de vouloir vivre sur sa terre, indépendant. Pashut. Lakum ou l'ishtacher, liot, lichyot chaye chofesh, pshutim, kechola amim. De vivre une vie libre, comme tous les peuples. Ratzon tivize mitoch argasha leumit tivit zehu ha-shofar ha-benoni ha-ragil ha-matsui bechol makom ve'af hu shofar kasher af al pi she-ha-mitzvah berishon yoter me'asher bo bedi'avad kol ha-shofarot kasherim. Donc je dis voilà, c'est quoi le shofar benoni dans la Géoula? C'est les gens qui ont voulu revenir en Israël parce que on voudra avoir un pays comme tous les autres peuples. On appelle ça le sionisme laïque, le sionisme d'Herzl. Pourquoi tu viens en Israël? Parce qu'il faut un pays pour les Juifs, pour qu'ils vivent tranquilles. Ce n'est pas poussé par la Torah. C'est poussé par cette volonté naturelle de chaque peuple de vouloir ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire? Alors, on dit dans la foule que ce n'est pas le top, et on fait la bracha sur le halel pour des gens comme ça. OK? Mais on dit dans la foule. Oulam, yesh gam darga shlishit beshofar shel Mashiach. Mais il y a une troisième dimension aussi pour le shofar du Mashiach. Ve'af hi makbila le shofar shel Rosh Hashanah. Et là aussi, il y a un lien avec le shofar de Rosh Hashanah. Shofar katan, pasoul. Un shofar petit, impur. Pas bien. Shetokim bo be'echach. Qu'on sonne que quand on n'a pas le choix. Im en shofar kasher ben imtsa. S'il n'y a pas d'autre shofar kasher. Im afsa itla'avut ha'kodesh. Si il n'y a plus cette dimension de Kedusha qui me réveille, et ve'im gam argasha enoshit leumit tivit ve'ratzon shel chaye leom bekavod gam em afsu, et s'il n'y a plus non plus cette volonté d'être un peuple qui vit sa nation sur sa terre, comme on peut avoir aujourd'hui, et comme il y avait évidemment à l'époque du Rav Kook, où les gens étaient très très bien chez les goyim où ils vivaient, avec l'émancipation et tout ça, ils ne pouvaient pas du tout commencer à recréer un truc. Et bien, nous dit le Rav Kook, « Im i efshar litkoa beshofar kasher le geoula, baim oive Israël vetokim beoznenu le geoula. » Alors c'est quoi le shofar katan? C'est les ennemis d'Israël qui sonnent à nos oreilles pour la Géoula. Ça s'appelle comment en français? L'antisémitisme, la persécution. Oive Israël. Em machrichim otanu lishmoa kol shofar. Ces ennemis d'Israël nous obligent à entendre la voix du shofar. Em matri'im umar'ishim beoznenu. Ve'einam notnim lanu manoach bagola. Il ne nous donne plus aucun répit en exil. Aha. Shofar shel chayat me'a ne'efach le shofaro shel Mashiach. Le shofar d'un animal impur devient le shofar du Mashiach. Aha. Amalek. Patliora. C'était un grand cosaque du XVIIe siècle. Regardez ce qu'il écrit maintenant.
L'Iran ?
Non. Alors, il faut qu'il habite en 1935. Hein. Ah, non. Il dit, c'est marqué dans le texte. Regardez, vous avez le texte, vous avez un petit 1 entre parenthèses. Et il y a marqué quoi le mot d'après ? C'est dur, hein, l'hébreu. Hein. Hitler !
Ah, Hitler.
Eh oui ! Le Rav Kook, on est en 33. avant qu'il n'y ait encore eu aucune persécution en Allemagne. Et il te dit, Hitler, Vechou, Meorerim le Geoula. C'est eux qui éveillent à la Geoula. Comment ? Par la persécution. C'est alors un fou qui te dit, on est en 33, il te dit, t'as pas compris ? Si tu veux pas comprendre le chauffard Gadol et Benoni, il t'auras pas le choix. Alors évidemment, nous dit le Rav Kook, « Umi shelo shama kol ha-shofar ha-rishon ve'af le kol ha-shofar ha-sheni ha-ragil lo ratza lishmoa, ki oznav ne'etmu, ou ishma le kol ha-shofar ha-tame ha-pasul ba'al kocho ishma. » Il n'aura pas le choix d'écouter. « Ve'af u yetze yede chova, gam le'omiyut shel ze, ezo, c'est-à-dire shel ha-shot, shel tzarat ha-yehudim, gam ba yesh min ha-geoula. » C'est pas bien que tu te réveilles parce que Haman il a envie de massacrer le peuple juif. Mais bon, au moins tu t'es réveillé. Oulam, al shofar ze en levarech. On fait pas la bracha sur les nazis. Parce que même s'ils ont amené à l'éveil du peuple juif, on s'en serait bien passé. Kol sheu min klala en mevarchim alav. Anu mitpalelim, termine le Rav Kook, שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והתאמה בעל כוחנו. Il prie qu'on n'ait plus besoin d'entendre cela. Malheureusement, cette fille-là, elle n'a pas été entendue. Enfin, elle était entendue, mais elle n'a pas été acceptée. ואף לשופר הפשוט הבינוני, החילוני כמעט, אין אנו מתגעגעים ביותר. Et même le chauffard kasher benoni, chiloni, c'est pas ça qu'on veut vraiment. Anu tfila. Nous prions. Teka beshofar gadol lecherutenu. Shofar sheba mitoch omek dushata shel nishmat Israel, mitoch kodesh kodshenu, ve'az te'e ha-geula shelema. Donc il prie en disant, en terminant, en disant, j'ai envie que tout le monde entende le grand shofar, allez réveillez-vous mes frères. Mais vous vous rendez compte? Il est un des seuls, pour ne pas dire le seul, qui avant la Shoah a dit, non mais... C'est lui, hein, c'est ce Hitler-là qui va faire le massacre du peuple juif. Les amis, réveillez-vous. Il n'est pas trop tard.
Pourquoi il n'a pas dit ça en dehors d'Israël?
Comment ça en dehors d'Israël?
Il a dit, allez, attention.
Bah, d'abord parce que le Rav Kook, en 1933, il est malade, il a plus la force de voyager. Et au-delà de ça, je veux dire, toute sa Torah, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut partir d'exil.
Oui, mais il l'explique quand il est en Israël.
Mais non. Pourquoi tu dis ça ? Je te rappelle que le Rav Kook part en 1913 d'Israël parce qu'il est invité
à Londres.
Ah non, il ne part pas à Londres. Il est invité d'abord en Allemagne pour le congrès de la Agudat Israël. Et c'est quoi le sujet du congrès ? C'est comment on se bat contre l'assimilation. Et le Rav Kook est invité en tant qu'invité d'honneur d'Eretz Israël parce que lui, sa chita, c'est de dire à tout le monde bah, « Venez ». Donc il a essayé. Combien tu peux prévenir les gens ? Mais qui ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas écouter.
Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des persécutions, c'était un chauffard
catalan. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des persécutions, il y a une dimension où on doit prendre conscience d'un réveil qu'on doit faire. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois tu pouvais monter en Israël. Des fois, tu n'avais pas le choix. Les croisades, tu ne pouvais pas monter en Israël. Mais il y avait forcément quelque chose à réfléchir là-dessus.
Jabotinsky aussi, il a
fait un discours. Oui, évidemment. Non, mais le Rav Kook n'est pas le seul à avoir parlé. Jabotinsky, il parle en 39, oui. Juste avant le début de la guerre.
C'est ça.
Et il dit, partez de Pologne, partez de la Galoute avant que la Galoute se débarrasse de vous.
Oui.
C'est vrai, mais ça, on est déjà en 39. Il y a déjà eu la nuit cristal. Il y a déjà eu les lois Nuremberg. Il y a déjà eu plein de choses.
Oui.
Là, on est avant. Ezeu Chacham, Aroet, Anolad. Dit Evet, il n'est pas trop tard. Nahon, il s'est passé un truc, il y a quelque chose. Hitler, il est au pouvoir. Donc, c'est pas trop tard encore. Tu vas me dire, non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il y avait le livre blanc, les gens ne pouvaient pas monter en Israël. De toute façon, les Anglais, ils ne permettaient pas.
D'accord, mais vous ne dites pas ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise. On est en plein.
Attends, j'y arrive.
Ah,
je dis simplement, non, parce que quelqu'un pourrait me répondre par rapport au discours du Rav Kook, qu'en 33, il y avait le livre blanc et les Anglais ne nous permettaient pas. À quelle heure il faut finir ?
Ah oui ? De venir en Israël.
Il faut finir maintenant à une heure ?
Jusqu'à midi et demi, normalement.
Ah ! Oula ! On a dépassé, hein, les amis.
Bon. On a dépassé, mais vous avez commencé.
C'est ma faute. C'est ma faute. Alors, très bien. Alors, les amis, juste pour terminer avec ça, même à l'époque des Anglais, c'est vrai que les Anglais, ils permettaient pas à tout le monde de venir et qu'il y avait des quotas et que c'est pas bien. Mais on les a jamais remplis, les quotas. Sur d'un côté, il y avait des quotas. Et d'un autre côté, il y avait pas autant, il y avait de toute façon pas de juifs qui voulaient venir. Ceux qui avaient pas de certificat. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient sans certificat. Donc, ils les renvoyaient. Mais c'est pas parce qu'on avait atteint nos quotas. Ça aussi, il faut se rappeler. C'est-à-dire ? Alors, comment on fait ? Hein, parce que c'est bien gentil de dire tout ça, mais est-ce que... qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bien, les amis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on doit se rappeler d'une chose. C'est que ça n'a pas commencé ni à l'époque de Nabucodonosor, ni à l'époque des Grecs, ni à l'époque de la Shoah. Mais ça a commencé dans la paracha de cette semaine. Paracha de Vayigash. On est rentré dans la paracha de Vayigash. Dans la paracha de Vayigash, ça y est, Yosef va se dévoiler à ses frères. On a lu, ça y est, les histoires de Yosef et de ses frères. Et dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, eh bien, Yosef, ça y est, se dévoile à ses frères et fait venir tout le monde en Égypte. Il fait venir tous les Juifs en galoute. Bon, il n'y avait pas le choix, il y avait la famine. Et la paracha de Vayigash se termine sur un verset terrible qui dit « Vayashev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazu ba vayifru vayirbu me'od » Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, et ils y ont fructifié, et ils se sont installés, et ils ont prospéré beaucoup. Eh bien, alors,
c'est pas bien, ça.
C'est terrible. C'est terrible, parce qu'en fait, on est venu en Égypte parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il y avait la famine, mais on aurait pu repartir après la famine, et on n'est pas reparti, parce qu'on était bien en exil. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est resté ? Eh bien, au final...
On est resté.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, l'esclavage a commencé beaucoup plus tard. Parce que l'esclavage ne commence que 130 ans après la mort de Yosef. Ils se sont assimilés. Et au final, eh bien, ceux qui n'ont pas voulu partir, d'abord ceux qui sont partis, ils sont partis quand ? Après les persécutions de l'Égypte. Et je vous rappelle que seulement 20% sont partis. Et les autres, ben, nous dit la Torah, sont morts dans la plaie des ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous tombés pendant qu'il y a eu le rocher. Ce sont assimilés, ils sont perdus pour le peuple juif. Tu me demandes qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Les amis, il n'est pas trop tard, mais il faut avoir les yeux rivés sur ce qui se passe. Parce que les gens qui vont rester en France, aux États-Unis ou ailleurs, pas demain, évidemment pas demain, mais dans l'avenir, ils sont ces 80% qui ne veulent pas venir. Et soit ils décident à un moment donné de venir, de se rattacher à la Géoula du peuple juif, soit malheureusement l'assimilation, elle va avoir raison d'eux. Et c'est une réalité. Et si on n'est pas capable de le mettre devant nos yeux, cette réalité-là, alors c'est un danger terrible. Maintenant, je vous le dis, ça ne sera pas demain et ça ne sera pas dans une génération. C'est sûr. Il y a des gens qui te disent, mais non, mais moi je reste à Paris, mais j'ai ma communauté, je suis un religieux, j'ai mon bête midrash, j'ai mon rav. C'est, lui, il restera juif, il n'y a pas de problème. Ses enfants aussi, certainement. Mais
les petits-enfants,
les petits-enfants, l'homme chané. Ça, on en est là, mais on en est là. On en est là. Et donc, il faut être capable de voir les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et...
on nous dit que la Géoula est proche.
Mais elle n'est pas proche, elle est déjà commencée depuis 75 ans. Mais il y a des gens qui ne veulent pas avoir.
Peut-être
qu'on n'est pas capable aussi de... Hein ? Non, c'est la Tralta de Géoula. La Géoula, c'est depuis le 14 mai 48. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir.
Elle peut encore...
Elle continue, mais évidemment qu'elle continue.
C'est pas pour rien qu'on voit...
on n'a pas encore construit le Beth Amikdash.
Dans cette année qui passe dans le pays, vous savez, des fois, ça peut ne pas les attirer aussi.
Ah, c'est vrai que c'est tellement mieux ce qui se passe en France.
Non, mais ils doivent se dire.
C'est tellement facile de regarder Eretz Israël et de dire tout ce qui ne va pas.
Ah ben, ouais,
hein, c'est tellement facile. Non, il faut, comment ça ? Il faut dire tout ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire pas seulement ce qui ne va pas.
Oui.
D'accord ? Et Edmala Assot, à un moment donné, si la personne elle est religieuse, tu lui parles de Torah. Tu lui dis qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il soit, il veut que tu sois là. Si l'autre, la personne elle n'est pas religieuse, mais elle est avec un fort sentiment national, eh ben, tu lui dis, mais attends, tu n'as pas envie de porter tes couleurs, tu n'as pas envie d'avoir ton drapeau. Et si la personne elle n'est ni là ni là, eh ben, tu lui dis, mais tu n'as pas envie de ne pas t'assimiler.
Bon, mais vous voyez bien qu'on est devant quasiment un échec.
Je vois que on ne.
Qui monte en Israël, c'est les Ukrainiens parce qu'il y a la guerre, oui, etc. Mais c'est pas les Français, c'est pas les.
Et donc, nous avons un rôle à jouer, de commencer à transmettre ce message, parce qu'on l'a pas transmis pendant si longtemps. Il y avait que quelques rabbinim, le rabbin Ishaï, que quelques uns qui parlaient, qui disaient qu'il fallait venir. Il faut transmettre ce message à tout le monde. Amen, amen.
Qui ont des propriétés d'argent. Ouais,